Nous allons parler aujourd'hui de révolution numérique. Alors certains m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de révolution numérique? On en parle depuis longtemps, ou de toute façon, j'y connais rien. Et en fait, c'est des occupations pour gens désœuvrés, pas pour des gens qui exercent réellement le pouvoir. Alors, nous avons déjà eu l'occasion de faire, il y a 2 ans, je crois, 1 an ou 2, une soirée sur le Web 2.0. Faut-il prendre au sérieux le Web 2.0? Où Christophe Dehaye était l'orateur, on a fait d'autres séances. Et puis Christophe Dehaye, de son côté, a organisé une université d'été. Et de séance en séance, on s'est dit, tiens, mais il y a un matériau original qui montre en fait les différents aspects de ce qu'on appelle la révolution numérique. On voit dans la vie sociale des transformations importantes, dans les associations, on voit certaines associations qui utilisent les nouveaux moyens de manière hallucinante, qui ont une réactivité, qui font qu'avant même que les préfets soient au courant, ils sont déjà devant leur entrée en train d'expliquer qu'ils font des choses absolument abominables. Dans le monde de l'éducation nationale, il se passe des choses étonnantes, Christophe Dehaye nous l'évoquera. Dans beaucoup de secteurs de la société, il y a des transformations importantes et l'entreprise apparaît plutôt en retard. C'est drôle parce que l'entreprise était considérée comme en avance, l'emblème du progrès, et il semble que l'entreprise soit en général en retard par rapport aux usages à l'extérieur de l'entreprise, sauf une entreprise qu'on a trouvée sur le web, l'entreprise Lippi, représentée ici par Frédéric Lippi à ma gauche. Et j'ai oublié de dire aussi Danone, qui est une entreprise qu'on sait a une culture très originale, fait aussi des choses dans ce domaine. L'orateur Nicolas Roland, qui est indiqué sur votre programme, a eu un contretemps malheureux, il n'a pas pu venir, mais il m'a envoyé un petit texte. Donc j'essaierai de mettre un peu de relief à ce texte. C'est toujours difficile de lire un texte. Alors donc nous allons, l'occasion aussi est la sortie d'un livre qui s'appelle « Les vrais révolutionnaires du numérique ». Dans la couverture, il y a un petit jeune, on aurait préféré, c'est pas très inattendu qu'un jeune maîtrise le numérique, mais de voir des ménagères de 50 ans, des retraités ou d'autres personnes devenir des virtuoses de l'Internet et des démarches collaboratives, c'était plus original. Donc il est signé Michel Berry, en fait, c'est l'École de Paris. Christophe Dehaye, c'est documental. Donc nous avons signé ce texte à tous deux. À la fin, vous pourrez l'acheter, si vous voulez, même on pourra vous le dédicacer. Donc, dans la soirée, Christophe Dehaye fera une entrée en matière. Ensuite, je lirai le texte de Nicolas Roland, puis Frédéric Lippi présentera son expérience. Comme d'habitude, nous aurons ensuite un débat. Je propose de limiter les questions dans la partie exposée aux problèmes de compréhension, puis on aura un débat ensuite qui se prolongera par une discussion autour du buffet. Donc, moi, j'étais dans cette affaire un peu l'imprésario, le producteur de l'École de Paris. J'ai pris un peu la plume. Et Christophe Dehaye, c'est lui qui connaît le mieux le sujet. Et en tout cas, c'est un showman. Donc, comme c'est un showman, je vais lui passer la parole pour qu'il commence son show.
Révolution numérique, mode d'emploi, voilà un titre, bon, on ne va peut-être pas quand même vous donner le point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3, c'est effectivement un peu plus compliqué que ça. En l'occurrence, donc, nous avons intitulé ce livre « Les vrais révolutionnaires du numérique » car on nous parle beaucoup de numérique depuis longtemps. On interviewe en général toujours les mêmes, des patrons de start-up qui ont une extraordinaire expérience en management, en général entre 1 an et demi et 3 ans. Pour nous parler de cette incroyable révolution du numérique. Notre conviction, nos observations nous poussent à penser que ce ne sont pas ceux-là les vrais révolutionnaires, ce sont tous les autres, et ils sont de plus en plus nombreux. Alors, une révolution, bah c'est quoi? C'est évidemment, possiblement, une révolution technologique, on nous le dit depuis toujours, hein, plein de choses bougent. Bon, en fait, c'est tout sauf une révolution technologique. Il y a effectivement une évolution technologique, mais la vraie révolution, et si le mot est justifié, c'est une révolution sociale, une révolution au sens strict, c'est-à-dire quelque chose qui change l'ordre des choses, voire intervertit l'ordre des choses. En fait, cette révolution numérique, c'est tout simplement le fait que les utilisateurs s'accaparent ces technologies pour en faire plein de choses, y compris des choses qui n'avaient absolument pas été pensées par les concepteurs de ces technologies. Je suis obligé de faire un petit passage très rapide, c'est que finalement, derrière le numérique, en fait, c'est un terme un peu nouveau. Avant, on parlait plutôt de société de l'information ou ce genre de choses. On y voit souvent l'ordinateur, dit autrement l'informatique. En fait, non, c'est la croisée de beaucoup de choses. Aujourd'hui, si on parle de numérique, c'est la croisée de 3 technologies qui sont assez différentes au départ. Les technologies de l'information, la technologie des télécoms, les réseaux, le téléphone, et les technologies audiovisuelles, la vidéo. Ce qui est troublant, c'est que l'informatique, c'est un bout, un des trois bouts, mais à la fois, c'est ce qui sert de lien aujourd'hui. Et donc, on a l'impression que tout ça, c'est de l'informatique. Il faut bien comprendre que si c'était de l'informatique, il n'y aurait pas cette révolution. Parce que l'informatique, même si elle fait beaucoup de progrès, elle va vers l'utilisateur, c'est quand même pas grand-chose à côté du téléphone ou à côté de la vidéo, qui depuis toujours est très proche de l'utilisateur. Tout le monde sait utiliser une zapette. Le téléphone, c'est ce qui rapproche les grands-parents des petits-enfants qui sont très loin. Il y a toujours eu un côté extrêmement social sur ces technologies. Ce n'était pas le cas du tout de l'informatique. Et donc finalement, quand on parle de technologie de l'information et de la communication, qui était un autre vocable, eh bien on peut distinguer deux choses. Il y a l'informatique, avec un bout de télécom, c'est l'information. Et puis il y a un autre bout, c'est les technologies de la communication, avec beaucoup la télé, la vidéo et tout un tas de choses, et un peu de réseau. Alors, pourquoi tout ça? C'est que finalement, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, toute l'activité que l'on trouve sur Internet, bah, si on accepte Google, bon, c'est une exception importante, j'en conviens, mais en fait, tout ce qui est venu après Google, ou presque, eh bien, c'est essentiellement des technos qui tournent autour de l'audio, de la vidéo, des téléphones, des réseaux, et donc quelque chose qui est de toute façon nativement beaucoup plus proche des gens que l'informatique. Et si ce n'était pas le cas, très probablement, il n'y aurait pas eu tout ça. Il y a un principe dans le Web 2.0, un principe appelé le KISS, Keep it simple, stupid, sous aucun prétexte, vous n'avez à sophistiquer les systèmes, car comme le but du jeu, c'est d'avoir la plus grande masse possible de gens qui vont collaborer entre eux, il est absolument indispensable d'avoir le plus grand nombre au départ, donc d'être le plus proche possible des gens, sinon, à l'arrivée de l'entonnoir, il n'y a pas grand-chose. Autrement dit, pas de prérequis techniques, économiques, culturels. On doit rentrer dans ces systèmes, pour être plus précis, ce n'est même plus des systèmes, ce sont des services, complètement naturellement. Et puis derrière ça, on constate qu'il y a une utilité, certes discutable, on en parlait tout à l'heure, certains se disent « ça ne sert à rien », mais finalement, ça ne sert à rien, et pourtant les gens y passent beaucoup de temps, ça doit être au moins distrayant. Éventuellement, c'est intéressant, amusant, voire reliant, ça met les gens en relation les uns avec les autres. Et donc, les gens qui ont du temps et de la motivation, il y en a aujourd'hui plus d'un milliard et demi, eh bien, se rencontrent dans cet espace-temps social et font de plus en plus de choses. Alors, pourquoi il faut de la motivation? Sinon, on ne fait rien. La motivation, ça s'explique toujours par du sens. C'est pas parce que les choses nous sont complètement hermétiques, que ça n'a pas du sens pour les gens qui le pratiquent, qui le font. En fait, le temps et la motivation, on peut se demander si par hasard, il n'y aurait pas un monde dual aujourd'hui, ceux qui ont du temps et ceux qui n'en ont pas. Alors ceux qui n'ont pas de temps en général, c'est parce qu'ils sont tellement intégrés dans la société qu'ils courent en permanence et ils n'ont temps de rien. Et tous les autres, tous les entre guillemets relégués d'une manière ou d'une autre, ont finalement un temps infini et un problème d'intégration sociale. Et donc finalement, on découvre et on comprend peut-être pourquoi sur Internet, on trouve énormément de gens qui font énormément de choses et qui ont deux caractéristiques en commun, pour l'essentiel, d'avoir du temps et d'avoir un problème entre guillemets d'intégration sociale dans la société dite classique. Autrement dit, on va trouver évidemment des retraités, c'est beaucoup plus étonnant que des jeunes, parce que les jeunes, on sait qu'ils ont du temps, on sait qu'ils sont spontanément tombés dans le numérique, mais en fait, les retraités aussi ont du temps, beaucoup de temps pour certains et beaucoup d'envie. Les chômeurs, les âmes seules, les 35 heures, tout un tas d'effets. Il y a de plus en plus de gens qui finalement peuvent avoir ce double problème du temps et un problème d'intégration sociale. Alors, il y a 2 ans précisément, j'étais ici pour vous parler du Web 2.0 et j'avais pris l'exemple de Geriatric 1927, un certain Peter Oakley. Alors, c'est une star du net, hein. Il a sa page sur Wikipédia. Sur YouTube, il a 2 chaînes de télé à lui tout seul, une sur le jazz et une pour ses petites affaires, etc. Et je voudrais vous représenter. Donc voici Peter Oakley, qui découvre à l'été 2006 YouTube. Et il fait une véritable déclaration d'amour auprès de ces jeunes, en disant « c'est fantastique ce que vous faites, moi j'y arrive pas, il faudrait m'aider ». Il explique qu'il est amateur de jazz, mais il ne sait pas faire un montage audio, etc. C'est pour ça qu'on entendait le crin-crin au début. Bon. Le problème de Peter aujourd'hui, c'est qu'il ne sait plus le temps qu'il fait. Bah, le lendemain, il avait 4000 mails dans sa boîte mail. Il est suroccupé. Il est star de tout un tas de choses, y compris d'émissions de télé, etc., etc. Il a complètement rempli sa vie. La fin de vie d'un retraité au fin fond de nulle part, c'est-à-dire au fin fond de l'Angleterre, avec une toute petite retraite, fallait voir ce qu'il en disait, c'était assez effrayant. Vous l'avez vu, c'était son premier essai, il était assez stressé quand même, hein, devant sa webcam. Alors aujourd'hui, ça fait 3 ans plus tard, je vous présente toujours Peter, il a 3 ans de plus.
Hello, YouTubers. Well, it's...
Il est quand même incroyablement plus décontracté. Et là, il fête l'anniversaire, son anniversaire, ses 3 années sur YouTube. Il a encore plus de 50 000 personnes qui le suivent en permanence, après avoir eu des millions et des millions. Ça a encore 50 000 personnes qui le suivent en permanence et qui le reconnaissent comme leur père ou leur grand-père virtuel. Vous vous souvenez de l'incroyable papier à fleurs qui était derrière lui ? Son stress de départ tout à l'heure ? Alors, il est plus tellement stressé. Derrière, ce n'est pas un papier à fleurs, c'est tout un tas de photos de gens avec qui il échange. Vous voyez même un ordinateur désossé, comme quoi il a gagné en technicité. Hein. Il y passe un temps fou, mais aujourd'hui, c'est vraiment un expert en tout genre. Pas tellement technique, mais surtout, il peut faire énormément de choses et rencontrer plein de monde. Alors, le sommaire, finalement, de ce livre... Le premier chapitre concerne le web 2.0 pour expliquer un peu les fondamentaux de ce mouvement. Le deuxième chapitre concerne le jeu, l'omniprésence du jeu. C'est quelque chose qui est absolument vertigineux, ça occupe une part de plus en plus importante de l'économie, mais surtout ça occupe une part de plus importante de l'activité humaine, économique ou non. Et ça va sans doute croître et embellir pour tout un tas de raisons. On parle de plus en plus des jeux sérieux aujourd'hui. Pour tout un tas de choses, la formation, etc., etc. Le chapitre suivant est réservé à la puissance du réseau. On nous parle beaucoup du numérique, mais il faut comprendre numérique en réseau. On imagine que ces technologies, parce qu'elles sont en réseau, vont nous faire atteindre l'effet réseau. C'est plus que douteux. Ce qu'on constate bien, c'est que les organisations qui sont en réseau nativement voient leurs effets démultipliés par ce genre de technologie. Les entreprises qui ne sont pas organisé en réseau nativement, ne voit éventuellement une amélioration qu'à la marge, quand il y a amélioration. Autrement dit, ça libère le potentiel, mais encore faut-il que le potentiel soit là. Il y a un chapitre ensuite réservé à l'éducation. On adore dire que l'éducation est à la traîne surtout, hein, c'est le mammouth, hein, le mammouth qui ne se transformera jamais par rapport à l'entreprise qui en avance surtout. Ben, finalement, le mammouth, quand on regarde de près, il bouge pas mal. En l'occurrence, dans les Yvelines, il y a eu plusieurs opérations, mais il y en a plein partout en France. On a donné des iPods à des enfants, et après, bah, évidemment, il faut quand même occuper les enfants. Donc les profs se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors là, je vais vous montrer une petite vidéo, faite par une partie de l'éducation nationale, donc on voit que ça va même faire de la vidéo, pour nous raconter tout ça.
L'idée, c'était d'utiliser en français, de se demander quel exercice spécifique on pouvait mettre en œuvre avec l'iPod. Et j'ai pensé à la dictée parce que c'est un exercice qui pose un vrai problème, à savoir l'hétérogénéité dans le rythme des élèves. S'ils avaient le texte à disposition et s'ils pouvaient l'utiliser à leur rythme, on aurait une utilisation optimale de l'outil. À savoir que moi, j'enregistre le texte au préalable, que chaque enfant l'écoute. Il y a d'abord une première lecture complète du texte, comme une dictée absolument normale, sauf que moi, je n'interviens plus. Donc je vous lis le texte une première fois, vous ne notez rien et vous écoutez. Derrière la vipère apparut une jeune fille, d'un corps robuste, d'une démarche fière. Vêtue d'une robe de lin blanc arrêtée au bas du genou, elle allait, pieds nus et bras nus, la taille cambrée, à grands pas. Donc désormais, je vous dicte le texte. Je répète chaque groupe de mots 2 fois. D'un corps robuste, virgule. D'un corps robuste. Dans une dictée, en français, on a beau dicter les virgules, ça paraît pas compliqué, mais les enfants ne mettent pas les virgules, ne mettent pas les points. Et là, il n'y a plus d'erreur de ponctuation. Ils sont chacun dans leur monde, ils sont extrêmement sérieux, ils ne copient plus.
Zéro erreur de ponctuation, y compris pour les élèves les plus distraits, parce qu'ils peuvent aller à leur rythme. C'est évidemment un gain considérable, une manière de réassurer, y compris les élèves les plus déstabilisés. Alors pour montrer que ça bouge vraiment beaucoup, il y a un rassemblement dans pas très longtemps, au mois de mai, Intertis pour ne pas le nommer, et on y trouve sur le programme tout un tas de gens capables de nous expliquer plein de choses, comment enquêter sur le web ici, comment on fait une web radio. Alors, on n'est pas tous, on n'a pas besoin de se lancer dans la radio. Bah si, le podcast aujourd'hui, c'est un élément important de création de contenu, donc pouvoir faire un podcast intéressant, ça peut être tout à fait passionnant. Twitter en classe, qu'est-ce qu'on peut faire avec Twitter en classe? Bah, y a des profs qui font des choses et puis qui peuvent l'expliquer aux autres. Google Wave en classe. Alors Google Wave, c'est le prochain outil de Google. Il est encore en version bêta. Je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui l'utilisent. Et vous voyez qu'il y a déjà des gens qui commencent à se poser la question de l'utiliser en classe. Conduire un projet éditorial en ligne, donc prendre du recul sur Internet, etc. etc. J'espère qu'en l'espace de très très peu de temps, j'ai un tout petit peu changé la vision que vous aviez de l'éducation nationale. J'ai bien conscience que ce n'est pas réparti sur toute la France. Enfin, une organisation qui a plus d'un million de collaborateurs et quelques dizaines de millions de clients, ce n'est pas très simple à organiser. Hein. Donc, au moins, il y a une ébullition qu'on n'a pas toujours dans les autres organisations, notamment dans les entreprises. Autre sujet qui devrait être absolument vertigineux, c'est la ville. On avait un petit peu parlé, je ne vais pas creuser parce que je n'ai pas le temps, mais c'est un chapitre particulier qui est décerné. Voilà, vraiment, il se passe plein de choses là aussi sur les communautés virtuelles qui peuvent retrouver tout un tas de nouveaux liens, nouveaux. Hein, dans une ville comme Paris qu'on croyait complètement dépersonnalisée, on retrouve tout un tas de choses magiques. L'entraide instituée en système. Alors là, on arrive même à récupérer quelque chose qui, pour l'instant, était, reconnaissons-le, assez souvent en dehors du système économique. L'entraide, ça ne se facture pas. Et bien, il y a des entreprises, en l'occurrence une qui était venue donc, à l'école de Paris pour expliquer son modèle, a reçu le prix de l'innovation, et qui organise l'entraide, et voire le facture. Bon. Donc, on recycle dans le circuit économique ce qu'on pourrait appeler des services à la personne, des services de proximité, mais qui sont faits par l'intermédiaire de l'ordinateur, donc des services de proximité à distance. Vous voyez, tout de suite, ça nous entraîne un petit peu loin. Alors, il y a le livre qui, finalement, à travers ces chapitres, donne un certain nombre d'éléments de ce qui nous paraît être cette révolution numérique. Et puis, pour accompagner le livre, il y a un site internet, révolutionnairedunumérique.com. Pourquoi faire ? Bah, pour montrer ce qu'on ne peut pas montrer dans un livre. Hein, donc, évidemment, il y a tout un tas de vidéos, tout un tas de choses pour vraiment matérialiser ce qu'on ne peut pas montrer dans un livre, pour réagir et contribuer, parce qu'évidemment, on ne peut pas dire que tout le monde prend le pouvoir et pas laisser à tout le monde la possibilité de réagir et de modifier un peu ce contenu. Et puis pour tenir à jour, parce qu'évidemment, il faut quand même considérer qu'une publication, elle est assez vite obsolète. Alors voilà le site. Sur ce site, vous avez quelque chose d'un petit peu original. Vous avez, au fil des pages, quand vous tombez sur quelque chose qui vous intéresse dans le bouquin et que vous aimeriez comprendre un peu plus, il y a de très très fortes chances qu'à cette page-là, au fil des pages, eh bien, vous tombiez sur tout un tas de liens, tout un tas de vidéos qui vous montrent, qui vous expliquent un peu mieux, un peu plus dans le détail, ce que vous avez lu. Donc par exemple ici, à la page 96, on parle de la dictée dans le bouquin, et eh bien on répète un petit peu l'expérience, et puis vous avez le lien qui vous permet de tomber sur la vidéo que vous avez vue à l'instant. Nous avons fait aussi un e-panthéon, donc un panthéon numérique, tout simplement pour glorifier les pionniers, donc aux pionniers de la société numérique reconnaissante. Il y a un certain nombre de biographies de gens plus ou moins intéressants qui ont fait des choses tout à fait intéressante ou amusante sur le net. La plupart d'entre elles sont assez croustillantes, donc je vous le recommande chaleureusement. Donc évidemment, par exemple, on y retrouve Gériatrique 1927, où on retrouve sa bio plus ou moins complète avec tous les liens. J'en ai parlé à l'instant, je ne m'éternise pas. Et puis vous avez évidemment la possibilité de réagir, je l'ai dit, pour apporter vos commentaires, pour apporter une contribution particulière, y compris pour nous souligner qu'on avait oublié quelqu'un dans le e-panthéon. Il y en a forcément plein auxquels on n'a pas pensé. Donc évidemment, merci d'avance d'y contribuer. Et puis pour tenir à jour, et j'en ai bientôt fini, en fait, je voudrais vous faire part de nos observations sur ce qui se passe un petit peu aujourd'hui dans les entreprises. Par rapport à un phénomène qui est sans doute le phénomène le plus récent, le déferlement de ces réseaux sociaux ou de ces médias sociaux. Alors, réseaux sociaux, c'est plutôt quand on essaye de manipuler l'outil soi-même. Et les médias sociaux, c'est quand on utilise tout simplement des trucs comme Facebook ou Twitter. Alors, pour les entreprises, c'est simple. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser Facebook ou Twitter en entreprise ? La réponse est non. Et puis, on s'arrange pour que ce soit bien non, y compris en demandant aux informaticiens de faire en sorte que ça bloque. Et ce n'est pas qu'en France. C'est en gros une entreprise sur deux aux États-Unis qui est assez fière de dire qu'elle a mis un dispositif technique pour interdire. Et dans les autres cas, de toute façon, c'est quand même plutôt mal vu. Donc ça, c'est quand même assez étonnant. On avait vu il n'y a pas très longtemps des entreprises de CAC 40 se précipiter pour essayer de recruter sur Second Life. Hein ? On recrute nos gens, nous, dans les environnements virtuels. Alors, le nouvel employé qui arrive, il veut utiliser son Facebook basique, on lui dit « Ah ben non, c'est fermé. » On vous a recruté sur l'image d'une société très ouverte, mais non, là, c'est fermé. Combien de temps ça durera ? Il y a fort à parier que c'est intenable comme situation. Et donc, tôt ou tard, bon, mais pour l'instant, c'est zéro. C'est fermé dans énormément de cas. Après, il y a l'usage externe. Là, c'est un véritable boom. Beaucoup d'entreprises se disent qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Il faut arriver à faire quelque chose avec ces réseaux sociaux, ces médias sociaux. Et donc, c'est tout ce qui tourne autour du community management. Je voudrais vous montrer un petit exemple. C'est ce que fait Air France à travers Bluenity. Donc, c'est la le prolongement de Flying Blue, hein. Est-ce qu'on peut créer un réseau de gens qui voyagent ? Ben oui, si vous pouvez anticiper à l'avance de votre voyage auprès de qui vous allez pouvoir vous asseoir, donc là vous avez des gens qui définissent leur profil, hein. Puis évidemment vous pouvez le faire avec, c'est connecté potentiellement à votre Facebook pour ne pas avoir plusieurs saisies à faire. Vous pouvez vous déclarer, vous pouvez exprimer qui vous êtes, et donc des gens qui vont voyager avec vous, qui vont savoir à l'avance qu'ils vont voyager avec vous, ben vont vouloir s'asseoir plutôt à côté de vous, voire évidemment vous demander si vous ne pouvez pas les emmener à l'aéroport parce qu'eux, ils n'ont pas de voiture, etc., etc. Donc vous pouvez créer des communautés, des groupes, rentrer dans des discussions. On imagine assez volontiers qu'Air France se dit, une fois que les gens auront créé un minimum de temps, de choses entre eux, etc., ils n'iront pas voyager sur une autre compagnie, y compris pour 50 euros d'économie. 80 000 personnes qui sont aujourd'hui connectées. 80 000 personnes, ce n'est pas complètement ridicule. Donc c'est évidemment un peu le début, on va voir ce que ça... Et il y a beaucoup d'entreprises qui se disent, effectivement, il faut faire quelque chose avec les clients. C'est plus facile de faire avec les clients que de changer la maison en interne. On va le voir à l'instant. Donc on voit qu'Air France, qui a sûrement plein d'autres choses à faire, a trouvé quand même les moyens financiers de se payer quelques serveurs, quelques informaticiens pour mettre en place tout ça et pour donner ça à ses clients gratuitement, mais quand même pas suffisamment pour avoir le niveau de qualité de service qu'il a par ailleurs sur sa fameuse carte de fidélité Flying Blue. Moi, je n'ai jamais eu de problème de connexion sur Flying Blue. Je peux dire plein d'horreurs sur Flying Blue, mais pas de connexion. On se connecte tout le temps. Mais là, donc on voit qu'on a envie de faire quelque chose, mais on n'est pas encore tout à fait... On n'arrive pas à mettre les moyens équivalents à ce que l'on peut constater par ailleurs. En interne, là, c'est plutôt l'utilisation des réseaux sociaux, comme techno. En interne, beaucoup de gens en parlent. Et on imagine, derrière le terme collaboratif, qu'on va faire plein de choses. Là, pour le coup, on est quand même assez déçus. Pour l'instant, il n'y a quand même pas beaucoup d'entreprises qui ont des expériences très abouties en la matière. Je vais revenir là-dessus, sans doute, un petit peu dans quelques instants. Autrement dit, on voit bien qu'en interne, c'est plutôt les deux pieds sur le frein. Et même quand on n'y va pas forcément très bien. Pour l'usage externe des technos, là on a tout un tas de choses autour de la réputation numérique, qui est un signal un peu plus... C'est entre le rouge et le vert. On se dit que quand même de plus en plus de gens font des choses parce qu'ils entendent des trucs sur le marché. Donc il faut quand même surveiller. Mais en même temps, on ne sait pas bien comment s'y prendre. Et puis donc, on a des outils pour faire parler tout cela, des outils de text mining. Bon. À cet instant, je voudrais... évoquer quelque chose, c'est la petite rupture, mais qui est énorme en termes d'effet, en matière de conception de ces systèmes. L'informatique avant, pour définir un système, c'était une décision managériale. On faisait un truc parce qu'on avait décidé qu'on allait le faire, parce qu'on avait calculé un ROI, parce que ceci, parce que cela. Et l'utilisateur, c'était quelqu'un qui avait des habilitations, des droits d'accès, etc. etc. Avec ces systèmes-là, aujourd'hui, en fait, la décision de créer un espace... elle n'est pas managériale, elle se crée parce que des gens ont envie de le faire. Et l'utilisateur, c'est quelqu'un qui a un profil, on l'a vu tout à l'heure sur Bluenity, hein, il a un profil, il explique qui il est, il se montre en photo. Et puis, est-ce que c'est vraiment intéressant? Eh bien, ça va être une évaluation de tous les autres collaborateurs de l'entreprise qui vont dire si ce gars-là est intéressant ou pas intéressant. Vous voyez le problème. Où est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on va autoriser les gens à se prendre en photo sur la plage pour raconter qu'ils sont super experts en ceci ou en cela, pour leur profil? Mais où est-ce qu'on met la limite? Est-ce que les gens vont pouvoir s'évaluer entre eux? Mais c'était quand même réservé au management, ça, avant d'évaluer les collaborateurs. Donc, aller prendre sur le net ce qu'on a vu de si bien et essayer de l'introduire dans les entreprises, c'est tout simplement ébouriffant, c'est tout simplement révolutionnaire, au sens où ça renverse tout simplement l'ordre des choses, pour ne pas dire les représentations que l'on a de tout un tas de choses. On a donc des révolutionnaires qui sont relativement inattendus, au sens où ce n'est pas ceux dont on nous a parlé pendant longtemps, ce sont tout simplement cette cohorte de gens ordinaires qui ont du temps et de la motivation, qui n'ont aucune idéologie particulière, qui n'ont aucun espoir de grand soir, ils ne veulent pas complètement couper des têtes, etc. Ce n'est pas du tout leur problème. Ils savent bien que ce qu'ils font est un petit peu subversif. Enfin, ce n'est pas la révolution. Il n'y a aucun meneur identifié, donc c'est une révolution très particulière. Ces gens-là, effectivement, sont en train de gagner leur place dans un nouvel espace social. On va dire, pour être un peu rude, totalement ignoré des élites, parce que les élites, elles n'ont pas le temps. Elles ont autre chose à faire. Donc elles connaissent, elles disent, oh, c'est bien, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Il faudrait qu'on fasse quelque chose, surtout si c'est des clients. Bon, ça c'est pour ça qu'on a fait ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais elles ne comprennent pas vraiment fondamentalement le pourquoi. Tout simplement, ces gens font ça parce que c'est une manière très importante pour eux d'exister, de trouver du sens, etc., etc. Dit autrement, c'est un monde parallèle qui est en train de se créer, en tout cas pour l'instant. Ils ne se rencontrent pas avec l'autre. Peut-être qu'un jour, il y aura une grande bascule. Là, peut-être qu'il se passera des choses. Pour l'instant, ça se fait dans une certaine joie. C'est assez joyeux. Comme ça ne se rencontre pas, ce n'est pas très conflictuel. Donc, c'est une révolution très particulière. Parce qu'à présent, il fallait quand même couper des têtes pour changer des choses. On nous dit que les institutions sont complètement bloquées. Mais ces gens-là s'en fichent. Ils recréent un autre monde ailleurs. Ça interpelle fondamentalement nos représentations de l'entreprise. C'est quoi les frontières? On nous parle d'écosystème, donc les frontières, on s'en fiche. Mais le management sans frontières, on ne sait pas ce que c'est. L'organisation, la hiérarchie, est-ce que c'est les communautés? Le travail, est-ce qu'on parle de tâches, de contributions, l'activité? Est-ce qu'on parle de travail? Est-ce qu'on parle de jeu? L'importance du jeu? Vraiment, ça nous bouleverse très profondément. Alors à cet instant, j'en ai fini pour ma présentation. Et c'est bien parce que j'ai insisté sur le fait que ça bouleversait nos représentations que je suis assez content de laisser la parole à quelqu'un derrière qui va vous montrer qu'il a des représentations assez différentes de ce qu'ont dans la tête un certain nombre de patrons. Et puis, pour faire la transition, je vais quand même vous laisser une petite marque de fabrique du documental, une petite pirouette arrière, salto sans filet. Pour finir, petite vidéo d'un jeune qui a un petit problème. Il est sur... finalement son monde qu'on vient de décrire, en l'occurrence beaucoup Facebook, jusqu'à ce qu'un jour, il se rende compte que sa mère aussi est sur Facebook, et la première chose qu'elle attend de lui, c'est qu'il accepte d'être son ami. La grande angoisse de la plupart de nos jeunes, c'est finalement qu'on commence à occuper cet espace. Donc vous voyez, le jour où il y aura la bascule, ça risque d'être éventuellement un peu compliqué. Mais enfin, pour l'instant, cette bascule n'a pas vraiment eu lieu.